Mardi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mardi, le magazine de la rédaction de Jet FM. Je m'appelle Camilla et avec Victor, nous avons travaillé sur le CRA. D'ailleurs, en parlant autour de nous, on s'est rendu compte que ce sujet n'était pas très connu. C'est justement pour ça qu'on a eu envie d'en parler aujourd'hui. Les centres de rétention administrative, donc les CRA, sont des lieux d'enfermement destinés à des personnes étrangères que l'administration souhaite expulser du territoire. Il ne s'agit pas d'une peine judiciaire, on peut être enfermé sans avoir commis de délit, uniquement pour une raison administrative. Créés dans les années 1980, les CRA se sont multipliés au fil des politiques migratoires de plus en plus répressives. Aujourd'hui, on compte plus d'une vingtaine de centres en France, en métropole comme en Outre-mer. En 2023, près de 45 000 personnes y ont été enfermées. L'enfermement peut durer jusqu'à 3 mois, pendant lesquels l'administration va tout mettre en œuvre pour organiser leur expulsion. Les personnes retenues y vivent dans des conditions souvent dégradées, avec des angoisses permanentes. Celle d'être expulsée du jour au lendemain, une réalité régulièrement dénoncée par les associations et les avocats. Ce sujet nous concerne d'autant plus ici, à Nantes, où un projet de CRA de 140 places est envisagé d'ici 2027. Un projet qui suscite de nombreuses inquiétudes et mobilisations locales. Donc pour en parler, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui 2 membres du collectif Colère, qui regroupe des associations, des syndicats et des formations politiques pour lutter contre le CRA. Nejma Dahani, avocate en droit des étrangers, et Christophe Kilissi, membre de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Pour commencer, on peut commencer par voir ensemble comment fonctionne réellement un CRA, un centre de rétention administrative. Par exemple, on peut se demander qui décide qu'une personne est placée en CRA, à quel moment du parcours administratif cela intervient.
Alors, sur le parcours de la personne, quand est-ce que ça intervient? Ça peut intervenir à tout moment pour toute personne en situation irrégulière. Donc, ça peut intervenir après 20 ans de présence sur le territoire. Une personne, par exemple, qui avait des titres de séjour avant et qui n'en a plus, en raison de décisions préfectorales ou tout simplement... Donc, ça peut vraiment arriver n'importe quand. Des personnes qui sont seulement sur le territoire depuis quelques mois et d'autres depuis des années. Tant qu'on est en situation irrégulière, la personne peut faire l'objet d'un placement en centre de rétention.
D'accord. Ok. Super. Merci. Donc, comment se passe en pratique le contrôle qui peut mener à un placement en CRA?
Alors, le contrôle, c'est soit à la suite d'une interpellation classique, soit parce que la personne fait déjà l'objet d'une assignation à résidence. De toute manière, il faut que la personne fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou d'autres décisions. Ça peut être à la suite d'une décision de transfert vers un pays membre, mais on va se focaliser sur les OQTF parce que c'est les décisions administratives que l'on retrouve le plus en matière de rétention. Donc c'est une personne qui va faire l'objet d'une décision, d'une mesure d'éloignement. Cette mesure d'éloignement, elle peut être prise à la suite d'une demande de titre de séjour, par exemple de régularisation, ou à la suite d'une interpellation, tout simplement, par le préfet.
Ah d'accord, ok, ça marche.
C'est le préfet qui prend l'obligation de quitter le territoire et ensuite qui va prendre l'arrêté portant placement dans le centre de rétention.
Ok, ça marche, super. Est-ce que les personnes enfermées ont un accès effectif à un ou une avocate, à un interprète, à leurs droits?
C'est tout le problème. En réalité, le contrôle du juge et donc l'intervention d'un avocat ou d'une avocate va arriver au bout de 4 jours. Donc 4 jours de placement en centre de rétention. Ça, c'est nouveau, c'est la loi Darmanin. Avant, c'était 24 heures. Et d'ailleurs, avant 2014, c'était 5 jours. En fait, 5 jours plus 24 heures. Donc ça venait à 6 jours. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en considérant qu'il y avait un délai trop long entre le placement en centre de rétention et l'intervention du juge qui va contrôler la légalité de ce placement, et ce qui entraînait un risque d'éloignement avant le contrôle du juge. Et donc il y a eu une loi en 2014 qui a prévu un délai seulement de 24 heures. Donc le juge intervenait, donc l'avocat et l'avocate intervenaient dans ce délai de 24 heures pour respecter justement ce que mentionnait la Cour européenne. Là, la loi Darmanin revient en fait sur la législation de 2014 et donc antérieurement à 2014, sur un délai de 6 jours presque, puisque vous avez 96 heures heures pour que pour saisir le juge des libertés et 48 heures, donc on arrive à 6 jours en tout, pour que le juge des libertés fasse venir la personne. Donc on arrive sur un délai de 6 jours pendant lesquels, clairement, il peut avoir des éloignements sans aucun contrôle du juge.
D'accord, ok. Comment se déroule concrètement une expulsion depuis un CRA ?
Concrètement, depuis un centre, ils le menottent. Ils peuvent mettre même un casque sur la tête de la personne. Je crois qu'il y a eu un mort à la suite d'une intervention, d'une expulsion où la personne était menottée, avait le casque. Donc c'est un gros casque dans lequel on enferme la tête de la personne. Je crois qu'il y a une des personnes qui a été étouffée. Et donc ils l'emmènent dans un camion, ils l'emmènent à l'aéroport et puis ils l'accompagnent jusqu'à dans l'avion. Et donc, il y a éloignement.
Et pendant tout ce temps, il a le casque
Alors, parfois non, hein, ce n'est pas obligatoire, mais ça va dépendre des moments. En tout cas, ils sont menottés hein, pour la plupart,
ouais,
je pense.
Okay.
Mais c'est vrai que je n'ai jamais vu. Je ne suis pas là pendant les expulsions, mais c'est extrêmement, extrêmement violent.
Je confirme.
Une dernière question par rapport à... pour englober un peu tout ça. Est-ce que certaines personnes sont enfermées alors même que leur expulsion est en réalité impossible, par exemple dans d'autres pays où c'est en guerre ou dans n'importe quelle situation?
Oui, tout à fait. De toute façon, on s'aperçoit quand même que la majorité des gens qui se retrouvent dans des CRA sont finalement libérés. Ce qui prouve bien le côté arbitraire de la chose. Hein. Et effectivement, il n'est pas forcément pris. On considère maintenant que certains pays, comme la Syrie, sont maintenant des pays sûrs. Ce qui reste quand même largement à démontrer. Si vous êtes kurde et que vous êtes renvoyé en Syrie, je ne suis pas certain que vous y soyez vraiment en sécurité.
Oui, bien sûr.
Mais ça, c'est pas pris en compte.
Oui, ils s'en fichent un peu, quoi. Enfin, c'est...
Je pense, oui. Ouais. Oui, le côté humanitaire de la chose.
Oui, il n'est pas trop là. Quoi.
Ouais. De toute façon, il n'est pas là dès le départ.
Ce qu'a dit Christophe, c'est très intéressant parce que effectivement, les crânes n'entraînent pas une multiplicité des expulsions, puisque le gouvernement se targue de la nécessité d'expulser les personnes, notamment sous couvert d'insécurité. Alors déjà, j'aimerais bien qu'il nous prouve le lien entre sécurité et mise en place d'un CRA, parce que dans d'autres villes où il y a 27 CRA en France, dans les villes où se trouve un centre de rétention, je ne pense pas qu'il y ait une diminution des actes de délinquance, d'une part. D'autre part, cette nécessité de construire un CRA pour expulser, on le démontre, notamment la CIMAD avec ses rapports, démontre que depuis les années 80 aujourd'hui, le délai d'enfermement ne cesse d'augmenter et que les expulsions n'augmentent pas. Donc déjà, il n'y a pas de rapport entre augmentation du délai d'enfermement et expulsion. Et on voit bien aussi qu'il y a très peu d'expulsions qui se font par le CRA. Donc c'est une chimère. Et il y a d'autres fonctionnalités de ce CRA que les expulsions en réalité.
Pour clore un peu cette partie, et du coup après on va embrayer sur une analyse plus critique qu'on a déjà un peu commencé à faire de ces centres, on vous propose d'écouter Pozzo Stradamonte, qui est une chanson italienne datant de 2016. Son auteur, Errico Cantamalle, il y parle d'exil et d'enfermement en CRA.
Verso il mondo libero, la barca a pezzi ed ero stanco. Un uomo mi parlava, un uomo bianco, una lingua strana sembrava un canto. L'ascoltavo a stento, trattenevo il pianto, la lingua del mondo libero. Libero il sole, libero il vento, libero il caldo e libero il freddo. Libero lo smog, libero il cemento, libertà sprecata, soffrire il tempo del mondo libero.
eri un suono nuovo dalla strada, un suono di casa, un accento duro. Fuori c'era gente che gridava, ria da dietro il muro, lì fuori dal mondo libero. E ora sono qui e non so perché, né per quanto il vostro piano qual è. Giuro non ho ucciso, non ho rubato, ho avuto giusto il tempo di essere bloccato, rinchiuso in un mondo libero, rinchiuso in un mondo libero.
Cette chanson d'Errico Cantamalé est une ouverture pour aborder de manière critique l'écra. Durant cette partie, on aura l'occasion d'écouter un témoignage provenant du podcast « Là où les voix résonnent » réalisé par la CIMAD.
Alors, concrètement, il y a beaucoup de gens qui font le parallèle entre le CRA et une prison. Quelles sont les différences majeures entre une prison et un CRA et en quoi les personnes étrangères ils sont parfois beaucoup moins protégées que des personnes qui sont incarcérées, j'ai envie de dire, en prison assez classique?
Le parallèle, oui, il est évident. Enfin, nous, c'est ce que nous dénonçons d'ailleurs par rapport à ce projet de CRA. Pour nous, un CRA, c'est une prison qui ne dit pas son nom, en fait. Hein. Je dirais que pour moi, la différence majeure, mais bon, Nejma me contredit, enfin, complétera peut-être, mais la différence majeure, c'est que d'un côté, vous avez une décision administrative et de l'autre, une décision judiciaire. Mais sinon, mis à part ça, moi, concrètement, je ne vois pas de différence entre les deux.
Ouais, je suis totalement d'accord avec Christophe. Hein, en fait, il n'y a pas de condamnation pénale. On va en détention à la suite d'une condamnation pénale parce qu'on a été jugé coupable d'avoir commis telle ou telle infraction. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de condamnation pénale. C'est pas parce qu'on a commis une infraction qu'on va en CRA, c'est parce qu'on est en situation irrégulière. Après, sur les conditions, c'est catastrophique, hein, comme la prison, j'ai envie de vous dire. Et puis, il y a des personnes, c'est vrai, qui parfois ont été détenues en prison et qui arrivent en CRA et qui disent que le CRA, c'est encore pire parce que, par exemple, il n'y a pas d'activité. Vraiment, il n'y a aucune activité. C'est une catastrophe. Voilà, donc c'est des conditions humaines absolument dévastatrice, je pense, qui brise psychiquement les personnes.
Bien sûr, j'avais entendu moi un témoignage d'une personne qui disait que oui, il y avait aucune activité et que du coup, bah, le temps était tellement long, ils faisaient rien de leur journée, ils savaient pas ce qui allait se passer par la. Enfin, c'était complètement flou et enfin, au bout d'un moment, on perd la tête. Enfin,
oui, et puis sans compter justement qu'ils vivent avec cette épée de Damoclès
au-dessus
de la tête. Ne sachant pas forcément ce qui va se passer, pouvant être mis dans un avion dans l'heure qui suit. Enfin voilà, c'est déjà ça, c'est terriblement angoissant à vivre, très certainement.
Mais s'il y a une famille derrière, enfin...
Oui, alors là, on prend effectivement, on part du cas simple, entre guillemets, de la personne seule, mais après, il y a... Parce que dans ces mesures-là, il faut voir qu'on sépare des familles aussi.
Bien sûr. Ouais. J'ai entendu beaucoup parler de ça. C'est...
Donc, encore une fois, les conditions de, comment dirais-je, de traitement humain sont désastreuses.
Bien sûr.
Désastreuses. Ouais. Et puis, on est quand même sur de l'arbitraire complet, puisque c'est une décision administrative. C'est un préfet qui va décider que monsieur un tel ou monsieur truc n'a plus rien à faire sur le territoire.
Il y a aussi une absence d'accès aux soins qui ça a crié, enfin qui c'est il y a parfois alors la présence d'un ou une médecin c'est une fois par semaine, parfois il y a pas du tout de médecin, donc il y a des personnes qui ont besoin de médicaments soit en raison de troubles psychiques soit en raison d'une condition physique qui nécessite un traitement médicamenteux et qui ne se voient pas prescrire ces médicaments, donc c'est Vous imaginez 3 mois sans avoir accès, à ces antipsychotiques ou ces, enfin, tous médicaments qui sont absolument nécessaires à la santé de ces personnes-là.
Et pour illustrer un peu ce propos-là, nous, en zone de recherche, on est tombé donc sur le podcast Là où les voix résonnent de la CIMAD, qui met aussi en avant des témoignages de personnes qui ont vécu en CRA. Et du coup, on vous propose d'écouter un petit extrait d'une minute sur une personne qui a vécu en CRA.
Commence par la journée du jour, par la petite déj, là, les gens, les agents là, qui rentrent directement dans la chambre sans toquer à la porte. Je trouve ça déjà. C'est pas intime, déjà de matin. Et on reste sur le repas et tout. Des fois, ils sont pas trop généreux du tout. Quand vraiment, là, c'est la nuit, il est grave long. À minuit, 1h, on se réveille qu'on a faim. La gamelle, on va dire, le repas, il est pas assez grand. Quand on demande un bout de pain en plus, ils sont pas d'accord pour un bout de pain. Quoi d'autre ? C'est trop petit. 4 personnes dans une cellule, 6 mètres ou 8 mètres carrés, c'est vraiment trop. C'est beaucoup de personnes. Au niveau hygiène, c'est pas ça, c'est nul. C'est pas ça du tout, c'est nul, c'est pas propre. Il y a cette toilette là, cette côté là, il y a une fuite depuis que je suis là, elle est jamais réparée, il y a toujours de l'eau.
Et en faisant nos recherches, on a découvert que, enfin, on a aussi appris que, au-delà des conditions qui sont désastreuses, il y a aussi beaucoup de violences. Depuis 2021, on a relevé qu'il y avait plus de 230 signalements de violences envers les personnes retenues, dont la plupart en fait étaient imputées aux forces de l'ordre. Est-ce que vous trouvez que la gestion des migrants aussi dans ces centres-là et se teintent de violence?
Alors c'est toujours un sujet un peu délicat à aborder parce que on est sur un sujet extrêmement sensible. Alors très honnêtement, moi j'ai pas eu de témoignage de ces violences directement, mais on peut effectivement les imaginer. On sait très bien que le comportement de certaines parties des forces de l'ordre est loin d'être exemplaire. Je suis désolé d'avoir à le dire, mais oui, il y a forcément des violences. Oui, il suffit de voir de toute façon comment ça se passe déjà dans la rue quand il y a
même dans les manifestations.
Dans les manifestations, mais déjà un simple contrôle dans la rue, oui. On voit bien comment ça se passe. On a des témoignages assez fréquents là-dessus.
Et est-ce que vous pensez que les CRA ils permettent un peu ou ils entretiennent cette violence qui peut être issue aussi d'une certaine colère ou des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que le CRA, il entretient un peu et il permet peut-être plus d'excès aussi ?
Il entretient, quand vous dites qu'il entretient la violence que l'État exerce sur les personnes étrangères, ça c'est clair, puisqu'il fait partie de l'arsenal, je dirais, violent de l'État contre ces personnes-là. Quand on enferme dans des conditions telles qu'elles sont, et puis j'ai envie de vous dire, si les conditions étaient parfaites, Colère lutterait quand même contre ces CRA, puisqu'on lutte contre tout enfermement des personnes étrangères. Donc oui, à mon sens, ça fait partie de l'arsenal violent qu'a l'État pour contrôler les corps, pour contrôler, casser psychiquement ces personnes-là et les expulser. L'expulsion est un acte violent pour les personnes qui sont expulsées. Donc évidemment, c'est un continuum de violence.
De toute façon, nous, on considère que ce sont un peu des zones de non-droit, de toute façon, les CRA. Donc, on peut après imaginer qu'il puisse y passer effectivement des tas de choses. Et oui, il y a forcément de la violence. Alors, je sais que ça heurtera sans doute certaines personnes d'entendre dire ça, mais il faut quand même savoir que la France a quand même été condamnée plusieurs fois par le tribunal européen par rapport aux violences policières. En France, on est le pays d'Europe où il y a le plus de décès liés à des interventions policières, il faut le savoir. Quoi qu'en dise le ministre de l'Intérieur, oui, on a une police. On a une pratique de la police en France qui est problématique.
Oui,
qui est
violente.
Problématique, qui est violente. Et ça a été, je vous dis encore une fois, souvent condamné par les instances européennes. Donc, oui, il y a un vrai problème de violence dans la police.
Et nous, du coup, on a aussi travaillé sur le fait, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des CRA qui étaient uniquement qui enfermaient des mineurs et qu'il y avait plus de 1500 mineurs en France qui étaient enfermés dans des CRA. Est-ce que vous trouvez, sur quoi vous avez pu travailler, qu'il y a une recrudescence, qu'il y a une augmentation de l'enfermement des jeunes ?
Alors, je ne pourrais pas vous le dire. Moi, je ne fais pas le contentieux de la rétention parce que justement, à Nantes, on n'a pas de CRA. Donc, sur l'augmentation sur le jeune âge des personnes enfermées, il y a eu moult condamnations concernant l'enfermement de mineurs. Depuis la loi Darmanin, l'enfermement de mineurs est écarté. On sait qu'en 2023, il y a eu à peu près 6 enfants âgés en moyenne de 3 ans qui étaient dans des centres de rétention. Sur l'augmentation de ces enfermements de mineurs, ça je ne peux pas vous répondre. Par contre, sur l'augmentation des enfermements, ça oui, on sait qu'il y a de plus en plus de placements en centre de rétention, comme il y a de plus en plus d'OQTF. On est l'un des pays européens qui prend le plus d'OQTF contre les personnes en situation irrégulière et on enferme de plus en plus.
Et ça contribue longtemps. Aussi à alimenter la violence d'État, vous pensez, le fait de viser des mineurs ?
Alors, viser les mineurs, moi, je ne sais pas, j'ai jamais eu... Je sais qu'il y a eu des condamnations et je pense que si on enferme des mineurs, ça fait partie de la... Enfin, ça fait partie, évidemment, d'une violence qui doit être condamnée. Et je pense que c'est surtout que, peu importe, en fait, je pense qu'on enferme. S'il y a un enfant, il y a un enfant. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Je ne sais pas si les mineurs sont visés particulièrement. Je ne crois pas. Je pense que c'est toute personne en situation irrégulière. Quand il y a une famille et qu'il y a des enfants dans cette famille et que toute la famille a pu être placée en centre de rétention, c'est vrai qu'il y a eu des mineurs qui ont été placés en centre de rétention, qu'on n'a pas fait attention à la présence de mineurs. Aujourd'hui, en 2024-2025, je ne sais pas s'il y a eu... d'enfermement de mineurs. Je ne peux pas vous répondre sur cette question.
Alors, apparemment, si. Ouais. Il y en a eu, je crois, de mémoire, on m'a cité sur l'année passée, 250 cas de mineurs incarcérés, bien que effectivement, ça soit maintenant, alors en métropole, parce qu'à Mayotte, c'est toujours autorisé, mais en métropole, normalement, on ne peut plus enfermer de mineurs. Mais il y a néanmoins... des fois où ça se passe encore.
Et il y a aussi des gens qui avaient fait un petit peu le parallèle, notamment à cause des enfermements d'enfants, avec la police de l'immigration aux États-Unis, qui en ce moment fait énormément parler d'elle. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce d'inspiration internationale ou d'échange de processus ?
Personnellement, je pense qu'en France, il y a des gens qui rêvent de voir une police de l'immigration à la Trump, hein, ça c'est très clair. Bon, on sait où il se situe, on sait où sur l'échiquier politique où ils sont placés, mais pas qu'à l'extrême droite. Hein, je pense que certaines personnes, je pense à un ancien ministre de l'Intérieur notamment, doivent voir ça d'un œil intéressé. Je pense qu'il faut. Il va falloir être très vigilant là-dessus parce que ça pourrait aussi arriver en France. Hein. On n'en est pas à des méthodes aussi violentes actuellement, mais.
Le parallèle est quand même. On peut le faire. Parce qu'on va chercher des personnes aussi hein, chez elles pour les expulser. Ça arrive. Donc c'est vrai qu'on est étonné de voir ce qui se passe aux États-Unis, mais il faut se rappeler quand même que le mécanisme est le même en France, et ce depuis plusieurs années. On peut venir chercher les personnes chez elles pour directement les placer les emmener à l'aéroport et les expulser. Ouais.
Juste pour appuyer un peu ce que dit Nejma, il y a eu un cas il y a pas très longtemps à Nantes avec des Géorgiens qui étaient scolarisés dans... Alors, il y en avait de scolarisés dans un collège à Rezé, il y en avait à Saint-Herblain et il y avait une autre commune. Et ces personnes-là ont été arrêtées. Ça s'est passé pendant les vacances scolaires, au moment où, bah, voilà, où il n'y avait plus personne, dans le... enfin, les gens étaient en vacances, ça oui. s'est fait au petit matin, en toute discrétion, enfin, voilà, c'était... voilà, on fait aussi, on fait des choses comme ça en France et pas très loin, hein, chez nous. Là, c'était sur l'agglomération nantaise.
Ouais, je voulais savoir, j'ai entendu parler le fait qu'il y ait des policiers ils font des contrôles d'identité dans la rue. Et je voulais savoir si c'était légal, enfin, parce que déjà sur quel, enfin, ils vont pas contrôler tout le monde, que j'imagine que ils font un peu. Ils le font en faciès, hein, littéralement. Donc, je voulais savoir si c'était... Enfin, c'est clairement pas légal, hein, mais j'ai entendu tellement de témoignages là-dessus. Et bah, du coup, les gens du coup, qui étaient dans la rue se sont retrouvés dans des cras à cause d'un contrôle d'identité comme ça, random, dans la rue. Donc,
Alors, cette question-là, elle va se poser devant le JLD. Lorsque le JLD va contrôler la légalité du placement, l'avocat ou l'avocate qui va intervenir dans le cadre de ce placement-là pour la personne étrangère va essayer de faire tomber la procédure et donc de caractériser une interpellation irrégulière. Effectivement, l'irrégularité de l'interpellation, c'est prouver qu'elle n'a pas été... comment dire ? Alors, tout ce qui est contrôle au faciès, on sait que ça se fait, on sait que ce n'est pas légal, mais par contre, pour le prouver, c'est compliqué. Donc, il faut justifier de l'irrégularité, enfin, essayer de prouver l'irrégularité de l'interpellation. Par exemple, lorsque l'interpellation est réalisée par la police municipale qui n'a pas les pouvoirs pour contrôler, etc., etc. Donc ça va être tout ce qui est procédure pénale. On va vérifier la procédure pénale pour vérifier si l'interpellation est régulière ou non. Et donc D'accord. ça sera le JLD, le juge des libertés de la détention, okay. qui va considérer si cette interpellation était régulière ou non. Si elle n'est pas régulière, cette interpellation, si le juge des libertés considère qu'elle n'est pas régulière, normalement, le placement en rétention est annulée, enfin la mise en liberté est ordonnée. Donc, okay. Le placement tombe. Après, ça n'empêche pas, enfin ça recommence.
Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont passées, notamment en juin dernier, où justement Gérald Darmanin avait annoncé une grande opération où il avait mobilisé beaucoup de policiers afin de contrôler assez largement pour essayer de, je sais pas comment on peut dire ça, de.
Bah, de faire une rafle.
Oui. c'est ça.
Oui. Alors c'était pas Darmanin, c'était Retailleau.
C'était Retailleau. Hein.
Bon, ça aurait pu être Darmanin, hein, mais oui. Bon, il se trouve que c'était Retailleau. oui, tout à fait. Oui, ils avaient organisé au niveau national hein, ce qu'on peut qualifier de rafle. Hein, enfin, ça fera encore une fois bondir certains, mais pour moi, c'est ça. Dans les gares, mais aussi... aux arrêts de tram, aux arrêts de bus, enfin voilà.
Ah ouais,
et
c'est impressionnant.
Oui. Voilà, et ils arrêtaient. Ben, alors moi, je pense que j'aurais pu aller à la gare sans problème, j'aurais pas été contrôlé, vous aussi, je pense. Mais les gens un peu plus marqués, on va dire physiquement, ben, ceux-là, oui, ils étaient contrôlés.
Et donc là, l'objectif, c'était clairement pour vous d'alimenter les CRA et de faire un coup de force, quoi.
Oui.
C'était la chasse aux sans-papiers, quand même.
Oui.
Je crois que Colère a fait un communiqué, justement, à ce moment-là, pour dénoncer ces rafles qui avaient lieu en plein centre, enfin, en plein Nantes. Et oui, le but, c'était de trouver les personnes en situation irrégulière, prendre des obligations de quitter le territoire, et ensuite les placer en centre de rétention.
Et c'était quand, ça ?
C'était l'année dernière.
C'était l'année dernière. Oui, c'est possible. Là, j'avoue que mais oui, c'était l'année dernière. Oui.
D'accord.
Et ça avait été bon. Alors, le résultat final n'a pas été
communiqué,
mais enfin, je pense qu'il n'y a pas eu tant que ça de parce que bon, ça avait communiqué pas mal dans les réseaux. Je sais que nous, sur Nantes, on avait prévenu un petit peu tous les gens qu'on connaissait. Donc, on leur avait dit, bah, demain, vous prenez pas le bus, vous allez pas à la gare.
Ouais.
Mais voilà, mais ça existe en France, oui.
Et je crois que, sauf erreur, hein, il justifiait ces contrôles par rapport à la lutte contre le trafic de stupes. Et il y a eu presque aucune condamnation ou poursuite. Il y a eu quelques poursuites pour détention de stupes, mais quasiment rien. Donc on voit bien qu'on a d'un côté un gouvernement qui parle de l'insécurité, la lutte contre le trafic de stupéfiants, et de l'autre, une mise de moyens énormes soi-disant pour lutter contre le trafic de stupes, et en réalité, on voit bien que l'objectif est tout à fait ailleurs.
Je vais revenir juste sur la capsule sonore qu'on a écoutée, sur le témoignage, qui est assez impressionnant. Et je voulais vous poser la question, c'est quand on vit ce quotidien pendant des semaines, parfois jusqu'à 3 mois, quels sont les impacts réels sur la santé mentale et physique des personnes enfermées? Si vous avez eu des personnes qui vous ont raconté vraiment du point de vue santé mentale
Pardon. J'ai pas eu personnellement de témoignage direct, mais enfin, on peut imaginer que c'est forcément désastreux. Il faut quand même savoir que ce sont des gens déjà qui ont un parcours très compliqué au départ, hein, quand on vient. Parce que, alors, bon, on va pas se lancer dans des grands débats, mais je veux dire, il faut que les gens imaginent ce que c'est que quitter son pays, quitter sa famille, ses amis. Ils viennent pas ici pour prendre des vacances, hein. Ils viennent ici pour sauver leur peau ou au moins pour essayer de vivre mieux. Mais pour cela, auparavant, ils traversent des périodes effroyables. Bon, alors ça, moi, des témoignages, là, du coup, j'en ai. J'héberge des migrants, donc ils m'ont tous raconté leur parcours de vie. Bon, ils ont tous perdu des copains dans l'aventure. Hein, les noyades en Méditerranée, bon, je n'en parle pas, mais déjà ce qu'ils ont pu vivre en Libye, par exemple, où là-bas ils sont, c'est terrifiant ce qu'ils subissent. Enfin voilà, ce que je veux dire par là, déjà au départ ils vivent des traumatismes invraisemblables, donc forcément ils arrivent ici croyant arriver au pays de l'homme, pensant pouvoir vivre une vie à peu près normale, et ils subissent aussi ces pressions là bon, c'est les conséquences sont forcément désastreuses. Et
bien sûr, surtout quand il y a des personnes qui viennent en France et qui veulent vraiment s'intégrer, qui vraiment donnent tout, quoi, littéralement.
Oui,
ils essayent de trouver un travail, ils font des études.
Bien sûr.
Enfin, tout dépend de l'âge, mais. Et directement, on les assigne sous OQTF et ça peut aller très rapidement. Enfin, je trouve ça vraiment horrible. Ils arrivent déjà, ça se trouve, dans un pays en guerre. Ils ont vraiment déjà un bagage très, très compliqué. Ils se disent, bon, bah, je vais reconstruire ma vie. Puis pour arriver après en France et après bah, leur dire bah non, en vrai, faut retourner dans votre pays. Enfin, c'est monstrueux.
Il y a des personnes sans quitter la guerre. Je pense qu'il faut pas compartimenter.
Non, bien sûr.
Les raisons pour lesquelles les personnes viennent en France. Il y a des personnes certes qui fuient la guerre, d'autres des persécutions personnelles, d'autres leurs conditions de vie. Voilà. Y a des personnes qui sont en centre de rétention, qui sont en France depuis des années, qui ont toute leur vie en France, et peu importe les raisons pour lesquelles elles ont quitté leur pays d'origine, de nationalité. Donc, elles arrivent dans un pays, elles y résident, et en fait, le centre de rétention, quand même, ça a pour conséquence de briser psychiquement les personnes, de briser des familles qui sont sur le territoire, parfois. C'est pas que des personnes qui sont en France depuis 2 mois ou qui essayent de fuir une guerre, personnes aussi qu'on et puis surtout je pense que c'est pas la question, mais c'est de s'en rendre compte que effectivement on enferme des personnes qui ont fui la guerre, à qui l'asile n'est pas reconnu, mais aussi des personnes qui ont eu des titres de séjour ou qui n'en ont pas, et qui les brisent psychiquement et qui ne donnent aucune autre chance. Et puis une fois qu'on est dans un crack, qu'on en ressort et qu'on y rentre et qu'on en ressort, comment voulez-vous trouver un travail? Comment voulez-vous vous stabiliser? Comment voulez-vous vous soigner? C'est impossible. Et donc, on en arrive à juste laisser la personne à mettre la tête dans l'eau, quoi, appuyer sa main pour qu'elle y reste et qu'elle soit sujette à d'autres possibles enfermements dans d'autres centres de rétention.
Donc, des personnes peuvent rentrer et re-rentrer dans un crack? Même s'ils l'ont déjà...
Oui, il y a des allers-retours qui se font. Donc,
ça, je ne savais pas.
Ouais,
okay.
Il y aura un premier placement dans un centre de rétention. Ce placement va être annulé par le juge des libertés, par exemple. Il y aura un autre placement, une autre interpellation, et donc un autre de nouveau. Par exemple, si la procédure est jugée irrégulière, donc le placement tombe, la personne se refait contrôler, et là, il y a de nouveau un placement. À partir du moment où il y a une obligation de quitter le territoire, on peut faire l'objet de placement. C'est pas parce qu'on en sort qu'on peut pas y retourner.
Ok.
Moi, je voudrais insister sur ce côté d'insécurité. Alors, on parle de l'insécurité au quotidien, que les gens sont en insécurité, mais imaginez l'insécurité que vivent ces gens-là en permanence.
C'est vrai qu'on n'inverse pas les rôles.
On les décrit toujours comme d'abominables terroristes ou violeurs ou je ne sais quoi, ce qu'ils sont loin d'être. Enfin, c'est une infime minorité parce que tous ces gens-là, ils viennent ici, c'est pour travailler et pour vivre une vie normale, la vie qu'on a tous. Mais on les met dans une insécurité permanente qui est terrible, terrible, terrible. Et j'en connais un paquet qui sont, qui psychologiquement vont très très mal parce qu'ils ne peuvent faire aucun projet. Tant qu'ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent faire aucun projet.
Oui, bien sûr.
Imaginez, moi je voudrais que tous ces gens-là qui décrivent, qui crient à. Contre les migrants, je voudrais qu'ils essayent 5 minutes de se mettre dans leur peau, qu'ils essayent d'imaginer ce que c'est que de vivre dans un pays étranger où effectivement vous maîtrisez pas forcément toujours parfaitement la langue, où vous connaissez pas forcément toutes les us et coutumes, et que en plus on fait tout pour vous rendre la vie impossible.
Et surtout aussi, on vous dit que ces personnes-là prennent tout l'argent de l'État, alors que quand ils arrivent, vous me dites si je me trompe, mais quand ils arrivent, ils n'ont aucune aide.
Oui, bien sûr. Il n'y a que les demandeurs d'asile qui ont le droit à ce qu'on appelle l'allocation de demandeurs d'asile,
le
temps de l'examen de leur demande d'asile. Et lorsque l'OFI ne retire pas l'allocation pour demandeurs d'asile.
Oui, mais sinon, les autres n'ont le droit à rien. Donc, ceux qui vous disent qu'ils viennent ici pour toucher les allocations familiales, le RSA, qu'ils ont forcément un logement d'attribué, c'est faux,
c'est archi faux.
Ils n'ont droit à rien.
Et puis, même si j'aime pas cette idée de justifier, de dire oh, l'immigration, finalement, ça nous apporte aussi à la France, il n'empêche que les personnes qui travaillent, du moins, cotisent. L'immigration rapporte. Donc, dans ce discours-là, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, ce discours un petit peu de. Voilà, est-ce que ça nous coûte? Est-ce que c'est eux qui nous coûtent? Est-ce qu'eux nous rapportent? En réalité, il y a des études qui le démontrent que l'immigration rapporte. Donc, elle ne coûte rien. Et même si elle coûtait, je pense que. Voilà.
Moi, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais, sur le fait aussi que ça pouvait les bloquer, le fait de ne pas avoir de papier. Et du coup, moi, dans le témoignage qu'on a écouté tout à l'heure dans la capsule, sur un podcast qui dure beaucoup plus longtemps, et en fait, la personne qui témoigne, elle dit bien que toutes les personnes avec qui elle est enfermée ont l'envie de travailler, ont l'envie de construire des projets. Et moi, de mon côté, j'ai réalisé le portrait d'un professeur de lutte, là, qui est juste à côté, qui s'appelle Tengiz Dalakishvili. Et en fait, lui, du coup, il a une OQTF, donc il n'a pas de papier, et en fait, ça le bloque aussi pour passer le diplôme pour lequel il a travaillé. Et là, aujourd'hui, en fait, il va passer ses examens, mais il est bloqué parce qu'il n'a pas de papier. Et même s'il réussit l'examen, il ne pourra pas avoir de diplôme.
Tout à fait, oui. Non, mais... Et puis, il faut imaginer que parmi tous ces gens, il y a des gens qui ont il y a des médecins, il y a des gens qui ont des diplômes de haut niveau qui sont pas reconnus chez nous, hein. Mais je veux dire, et ceux-là sont, enfin, ils sont traités comme les autres, quoi. Je veux dire, il y aurait des talents, il y a des gens dont on a besoin. Vous savez, moi, je pense que demain, si tous les migrants qui travaillent légalement ou même au noir s'arrêtaient de travailler, je peux vous dire que la France serait vite bloquée. Nos hôpitaux auraient beaucoup de mal à tourner, les restaurants, plein d'industries, enfin. Non, ces gens-là sont une richesse. Et puis on nous dit qu'actuellement il y a un problème démographique en France, qu'il y a de moins en moins d'enfants, qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent. Enfin, il y a plus de retraités que de gens qui travaillent. Donc, c'est un non-sens de les refuser. Enfin, non, je veux dire, on se tire une balle dans le pied, quoi. Ouais.
Et les gens sont pas assez renseignés. Hein. Enfin, j'ai l'impression que, enfin, c'est... Ils sont toujours dans la surface. C'est...
Oui, et je pense qu'on a, on a quand même perdu la bataille de la communication.
Oui, enfin, aussi.
Télé, on voit bien le, les discours qui s'y dégagent. On entend parler de rafles quand même dernièrement sur News.
Ah oui, oui, oui.
On parle maintenant, on ne dit plus les personnes qui font l'objet d'OQTF ou les personnes sous OQTF, mais on parle d'OQTF en tant que personne. C'est quand même, on voit bien que sémantiquement, on a...
Ça, c'est un truc qui me hérisse le poil à chaque fois. Encore une fois, on les déshumanise complètement.
Bien sûr.
Les OQTF, mais non, c'est pas des OQTF, ce sont des personnes ayant une OQTF, c'est pas la même chose. Oui, il y a un discours, alors bon, c'est le discours qui existe malheureusement depuis des siècles, hein, de pointer le, comment dirais-je, la. Le bouc émissaire, de dire que si tout va mal, bah, c'est à cause de l'autre. Hein, ça. Voilà, bon, c'est... Et malheureusement, il semblerait que ça marche quand même. Mais c'est un mensonge, c'est un non-sens. Là, apparemment, aux États-Unis, là, ça commence à poser des problèmes au niveau économique, hein, tous ces immigrés qui ont été expulsés. Et d'ailleurs, il faut noter que le patronat en France, lui, réclame. Et voyez ce qui s'est passé en Italie. Giorgia Meloni, qui pourtant est loin d'être comment dirais-je, une pro-immigration, a quand même fini par régulariser.
Ouvrir les visas, je crois. Oui, c'est ça.
Plusieurs centaines de milliers de personnes, parce que déjà les patrons italiens réclamaient de la main-d'œuvre. Donc, je veux dire, si on met de côté tout l'aspect humain, parce que je suis pas sûr que ça soit le sujet qui va forcément faire la différence, mais si on veut être pragmatique, tout simplement, hein, et parler d'économie, puisque c'est quand même ça qui mène a priori le monde, on a besoin de ces gens-là de toute façon. Donc, voilà quoi. C'est... Et puis encore une fois, oui, ces gens, ils viennent chez nous parce qu'ils ont envie. À mon avis, ils méritent autant d'être français que certains Français.
Oh, bah oui, c'est sûr. Quels sont les leviers juridiques, politiques ou militants qui existent aujourd'hui ?
Contre le CRA ?
Ouais.
Colère, par exemple. je vais quand même présenter la coordination. C'est une coordination, vous l'avez dit au début, qui regroupe 30 organisations politiques, syndicales, associatives. Et il y a également des individus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on peut populariser la lutte. Je pense que c'est important. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a peu de personnes qui connaissent en fait l'existence tout simplement de CRA. Alors, on voit que chez les personnes en situation régulière, elles sont toutes au courant que ça existe et donc que sur leurs épaules pèse la menace de cet informement. Par contre, du côté des personnes qui sont de nationalité française, on ne connaît pas les centres de rétention. Donc je pense déjà une première chose, c'est en parler et essayer de populariser la lutte. Ensuite, avec Colère, on a organisé donc chaque année un festival pour justement discuter de ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait envisager de faire, et aussi parler du point de vue de sociologues, d'historiens, mais aussi de personnes qui sont sans papier ou qui ont des papiers mais qui ont des difficultés à les renouveler, etc. Discuter de tout ça. Ensuite, il y a une pétition que vous pouvez signer. Je ne sais plus, on est à combien de signataires, je dirais 1900. Donc voilà, il ne faut pas hésiter sur notre site. On a le lien pour la pétition, pardon. On a également organisé des projections et également des réunions publiques avec les riverains, parce que faut le rappeler aussi, il y a les riverains qui sont à côté donc de ce projet de CRA sur le bois dormant qui est le seul poumon vert ou le plus grand poumon vert de Nantes hein, et sur lequel on va raser des hectares de forêt pour construire ce centre de rétention. Donc on avait fait, Colère avait organisé une réunion publique pour informer les riverains et puis des manifestations chaque année aussi que Colère organise pour montrer en fait pour organiser un rapport de force et pour montrer que les citoyens nantais et citoyennes nantaises ont connaissance de ce projet et qu'on refuse ce projet de, au regard de ce que cela implique. Et puis, on parlait coût. Eh bien, le coût, c'est quand même 36, plus de 36 millions d'euros
oh, wow.
juste pour la construction, sans compter les, le budget annuel, en fait, avec les salaires, etc. Et donc ça, c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser hein, dans l'accueil, dans l'accompagnement, dans les politiques sociales, dans les soins, et qu'on décide de mettre dans la construction d'un CRA pour enfermer les personnes.
Et alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il faut aussi préciser que dans Colère, il y a une association de riverains hein, qui s'est montée, qui s'appelle la RALB, qui a rejoint donc Colère aussi.
D'accord.
Donc, alors c'est intéressant parce que dans Colère, ben, effectivement, on retrouve un petit peu toujours les mêmes associations. Et là, ça permet un petit peu de sortir de l'entre-soi et puis de pouvoir voir un petit peu plus large aussi. Parce que, je veux dire, les riverains ne sont pas forcément des gens qui, au départ, se seraient forcément mobilisés, mais qui ont compris le combat et qui nous ont rejoints avec grand plaisir, je pense. Hein. Et donc on essaye de fédérer. On a aussi des contacts avec des associations chrétiennes aussi qui de leur côté manifestent aussi sont opposées au CRA. Enfin, ce qui est positif, là, je trouve sur Nantes, c'est que quand même le mouvement grossit, quoi. Il sort d'un noyau, je dirais, un petit peu traditionnel qu'on va retrouver dans pas mal de collectifs pour toucher une population plus large. Il y a quand même une conscience qui commence à se faire là-dessus, mais effectivement, il faut en parler. Des émissions comme celles qu'on fait ce soir sont utiles aussi parce que effectivement, on n'est pas toujours suffisant. Enfin, c'est pas facile d'être présent sur les médias, donc d'être entendu. Mais voilà, il y a quand même une écoute qui se fait à ce niveau-là, on arrive quand même à diffuser ce message.
C'est très important d'en parler, hein, parce que, enfin, moi, pour être honnête, avant de choisir un sujet, on m'a parlé des CRA. J'étais là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et vraiment, j'en ai parlé vraiment autour de moi, mes amis, ma famille, même des gens d'anciens collègues, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Et enfin, je me suis dit, mais il faut absolument en parler, parce que surtout là, en plus à Nantes, ça nous touche en plus particulièrement, enfin localement. Donc, je me suis dit, c'est fou quand même qu'il y ait ce genre de centre qui existe. Enfin, moi, ça m'avait tellement choqué, je m'en souviens. Il y a ce genre de centre qui existe. Enfin,
ça existe en France.
C'est fou.
Oui,
bien sûr. Nous, on considère que c'est un projet raciste et contre lequel on va lutter jusqu'au bout parce qu'on refuse. Alors, un CRA à Nantes ou ailleurs, hein, on a cette. C'est vrai que comme on est nantais et nantaise, on va déjà en enlever un. Éviter la construction d'un CRA, ce sera déjà ça. Mais la lutte continue contre ces centres de rétention partout en France.
Du coup, là, ce n'est pas confirmé. Enfin,
Alors, si, c'est confirmé. Oui, c'est le projet le permis de construire, pardon.
Okay.
Si, c'est confirmé par le gouvernement depuis 2022.
Okay.
En fait, à Nantes, ça a été déclaré en 2022. C'est là où Colère s'est organisée et s'est créée. Mais si, hein, y a cette volonté, c'est confirmé. Il y a déjà, on a déjà vu des machines hein, sur le.
Ah ouais.
Là-bas, qui.
C'est situé où déjà?
À côté de la maison d'arrêt. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de Nantes. C'est à Nantes, près de.
C'est à Nantes, mais c'est frontalier avec Carquefou.
Oui, c'est ça.
À côté de la nouvelle prison là-bas.
C'est tout ça, c'est le champ de manœuvre et c'est le bois dormant.
Ouais, d'accord.
C'est, normalement, c'est une zone, comme le disait Nejma, c'est un poumon de la ville de Nantes. En plus, alors, c'est extraordinaire parce qu'il y a eu des études forcément d'impact sur la faune et tout ça de fait. Et tout ce qui touche la faune s'arrêtait à la limite du bois. Avant, c'était c'est protégé. Enfin, avant le bois, c'est protégé, c'est intéressant. Mmh. Puis plus dans le bois, comme par hasard.
Oui, comme par hasard.
Okay. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, moi, sur l'écran, alors, c'est peut-être mon grand âge qui fait ça, mais ça, enfin, même si je ne l'ai pas connu, je suis encore assez vieux pour ça, mais ça me rappelle ce qu'on a appelé les centres d'internement durant la dernière guerre, hein, où on a aussi enfermé des gens uniquement parce qu'ils étaient étrangers. Mmh. Hein, les républicains espagnols, les antifascistes italiens, les juifs, les tziganes, et puis les apatrides de tout genre, les résistants allemands. Enfin, voilà, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même démarche.
Ah bah bien sûr.
Donc, voilà, moi, je... Ouais, moi, ça me fait peur, ça me terrifie.
C'est effrayant en fait d'enfermer franchement quelqu'un parce que ses papiers sont pas régulés, je trouve ça.
Oui, je crois que c'est important d'insister là-dessus parce que si vous écoutez certaines chaînes d'information, enfin si on peut appeler ça d'information, bon, certaines chaînes à la télé, on vous présente les gens qui sont en CRA comme étant tous d'horribles criminels, ce qui encore une fois est faux.
Est complètement faux.
Ah, faux. Alors. Il y en a dans le tas, je dis pas le contraire, mais c'est une minorité.
Oui, ils généralisent
tout. Et en plus, les gens qui sont dans les CRA qui ont commis des délits, généralement, ont été jugés, ont purgé leur peine, en fait. Hein. Donc,
c'est la double peine.
C'est la double peine.
Oui, c'est ça.
Donc, voilà. Mais encore une fois, la grande majorité, leur seul tort, c'est de ne pas avoir les papiers qu'il faut. Donc, c'est inimaginable. Oui.
Alors, pas sur les personnes enfermées, mais sur les personnes qui font l'objet de QTF, il y avait France 2, complément d'enquête, qui avait fait des statistiques, justement, et je crois qu'on arrivait à peu près à plus de 98% des personnes qui faisaient l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qui n'avaient jamais été condamnées. Donc déjà, ça veut dire qu'on ne compte pas le nombre de personnes qui n'ont pas de papier, mais qui ne font pas non plus l'objet d'une obligation de quitter le territoire, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été interpellées ou parce qu'elles n'ont pas demandé de papier, et qui ne font pas non plus l'objet de condamnation. Donc cette idée de relier immigration et insécurité, et encore plus construction du CRA et sécurité, c'est complètement idiot. Surtout que précariser ces personnes-là, c'est justement renforcer le risque du passage à l'acte d'une infraction. Puisque plus on est précarisé, plus on risque voilà, c'est des infractions mineures, mais de voler. Et puis on voit aussi sur les personnes qui sont enfermées, ça va être des infractions vraiment mineures, comme des infractions routières. Et donc à la suite d'une infraction routière, parce qu'on entend Retailleau dire « Oui, mais ce sont que des tops, donc des troubles à l'ordre public. » Donc pour justifier l'enfermement, on va dire donc la sécurité, parce que c'est des personnes qui troublent l'ordre public. Mais qu'est-ce qu'un trouble à l'ordre public ? C'est une notion hyper vague qui est utilisée par les politiques et les médias pour nous faire sentir en danger, tout simplement. Sauf qu'en fait, en réalité, on voit bien que ces personnes-là, ça va être des délits mineurs. Donc, infraction routière, je le disais, vol, etc. Donc, évidemment, nous, on considère que même crime commis, ça ne justifie pas la double peine et l'enfermement.
Bien sûr,
mais
ouais.
En plus de ça, on voit bien que c'est des personnes qui soit n'ont pas commis de délit, soit sont seulement soupçonnés de commettre des délits, ou soit les délits commis sont mineurs, détention de stup, voilà. Et en plus, il faut mettre ça aussi en balance avec leur vie privée et familiale. Quand il y a des parents d'enfants français, quand il y a des personnes qui sont là depuis 20 ans, qui travaillaient, enfin, voilà. Donc, on voit bien que le discours est complètement en dehors de la réalité de ces personnes.
Oui, parce que là, tu viens de dire quelque chose d'important aussi. Dans les lois anti-immigration, il y a aussi cette notion de gens susceptibles de commettre des délits. C'est quand même balèze. Mmh. On considère que lui, il est susceptible de commettre un délit.
Non,
donc,
mais c'est n'importe quoi.
Vous voyez quand même le niveau de, comment dirais-je, d'arbitraire dans lequel on est, quoi. C'est terrifiant, terrifiant.
Et pour aussi, parce qu'on a ouvert sur le sujet du CRA de Nantes, et je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que Nantes, c'est une terre aussi qui est vraiment multiculturelle, qui a toujours été accueil de migration et tout ça. Et est-ce que vous pensez qu'au-delà du simple côté pratique, d'y mettre un CRA, c'est vraiment un message qui est envoyé aussi alors à nous, aussi aux personnes qui n'ont pas de papier, qui seraient visées par cet enfermement, quoi.
C'est possible. Alors, je ne sais pas si c'est visé Nantes particulièrement parce que un peu de gauche, même si voilà. Je ne sais pas si c'est, si c'est visé complètement. En tout cas, c'est sûr que construire un CRA, ça renvoie un message en disant on va vous enfermer même ici. Ça sera plus facile de vous enfermer à Nantes. C'est sûr que là, ça demandait des démarches particulières, une organisation particulière pour les transférer jusqu'au CRA de Rennes. Là, c'est sûr que c'est un message de dire, bah, voilà, là, on a le CRA chez nous, il y aura 140 places, donc on compte le remplir. Et puis, c'est une menace de toute manière.
Puis bon, je pense que c'est pour satisfaire aussi une partie de l'opinion publique. Hein, dire, vous voyez, on agit. Hein,
c'est ça.
On est là, on va les arrêter, tous ces délinquants ou potentiels délinquants. Oui.
Mais à quand leur demander les résultats de cette politique? Puisqu'ils construisent et construisent des CRA, on aimerait bien avoir les résultats de cette politique. Est-ce qu'il y a moins de vols? Est-ce qu'il y a moins de condamnations? Qu'est-ce qui se passe?
C'est vrai qu'ils n'en parlent pas, bizarrement.
Oui, non.
Ils jouent
sur
leur terrain. Ils considèrent que ça va faire, hein, que ça baisse l'insécurité. Que ça va baisser les délits commis, bah, on attend des résultats. Et apparemment, bah, nous, on le sait très bien que nous.
Bah, oui.
Marseille, Rouen, enfin pas Rouen, mais tous les Loisel, Vincennes, Paris, etc., ça ne change rien.
Oui, parce que...
Et puis c'est d'autant plus ridicule que comme je le disais au début, la majorité des gens qui se retrouvent un jour en CRA sont libérés sans être expulsés. Donc la démarche sert strictement à rien. Quoi.
Ah non, mais oui.
Je veux dire, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment un effet d'annonce. Quoi. C'est pour dire, ben, on agit. Mais,
oui, c'est un peu pour... Alors, entre gros guillemets, rassurer la population en
disant,
regardez, on a des centres de rétention, ils vont être enfermés, vous n'aurez plus aucun problème.
C'est pour satisfaire.
Alors, je suis même pas sûre, parce que justement, les personnes ne savent pas que les CRA existent.
Oui, c'est vrai, on en parlait.
Aujourd'hui, là, on en parle et on se dit ça, mais c'est aussi une politique raciste, je pense, que de construire ces centres de rétention de manière volontaire. On considère que les personnes en situation irrégulière n'ont rien à faire là. Leur montrer qu'elles n'ont rien à faire là, et il faut que sur leurs épaules pèse cette menace, comme ça ils vont aussi se tenir correctement. Il y a tout ce système qui est mis en place par un État, et je ne suis pas sûre. Alors c'est sûr que c'est les effets d'annonce, ça on est d'accord, de dire on va, mais en réalité je ne pense pas que ce soit que ça.
On va peut-être essayer aussi d'avancer, enfin peut-être aussi de conclure. Nous on avait une question qui était un peu plus légère. Qu'est-ce qui, vous, personnellement, vous a amené à découvrir le CRA, comment il était fait, et à vous engager aussi dans la lutte contre le CRA?
Moi, personnellement, je milite à la Ligue des droits de l'homme, donc moi, tout ce qui concerne les problèmes d'atteinte aux droits, les problèmes de racisme, enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai chevillé au corps, donc pour moi, ça coulait de source de lutter contre même si, à mon avis, c'est qu'une petite... Enfin, je dirais, le CRA, c'est qu'une petite partie de la lutte, malheureusement. Hein, parce que si on n'avait qu'à se battre contre ça, ça serait formidable. Mais on a un chantier devant nous qui est énorme, malheureusement. Hein, là, on va rentrer en période électorale avec les municipales et l'année prochaine, les présidentielles. Et je peux vous dire qu'il y a un travail énorme à faire sur le terrain. Là, on commence déjà... Enfin, on y est déjà sur le terrain. Mais voilà, moi c'est mon engagement personnel, parce que je peux pas admettre ça, enfin c'est humainement c'est pas possible.
Oui, bien sûr.
Pour colère, moi j'y suis rentrée via mon syndicat, le syndicat des avocats et avocates de France, et je rejoindrai Christophe, je suis avocate en droit des personnes étrangères, donc ça paraissait naturel de lutter aussi contre le CRA, et comme je le disais, via le syndicat à Nantes qui lutte concrètement contre ces politiques.
Est-ce que pour conclure, vous avez des références culturelles sur le sujet, un film, un livre, une chanson, quelque chose comme ça?
Alors moi, à ma connaissance, enfin, je connais pas de littérature particulière liée au CRA. Alors par contre, il existe de la documentation, effectivement. Hein. Alors, on peut trouver ça sur le site de la CIMAD principalement, mais sur celui du JISTI aussi. Hein, le groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés. On peut le trouver aussi sur le site de la LDH. Enfin voilà, il y a de la documentation là-dessus. En termes de littérature pure, non, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête. Musicalement non plus, je connais pas trop de...
Je dirais le podcast de la CIMAD sur l'enfermement qui est pas mal, sur la rétention. Donc c'est la CIMAD qui a mis des micros avec autorisation des personnes qui étaient présentes. Enfin, le centre de rétention n'était pas au courant, mais c'est les personnes enfermées étaient au courant qu'elles étaient enregistrées. Donc il y a un super podcast.
Ah oui, okay.
J'ai oublié le nom, mais si vous tapez podcast CIMAD rétention, vous devriez le trouver. Et sinon, en littérature, j'ai pas sur le centre de rétention, j'ai pas. Par contre, un film en colère a projeté avec. Alors j'ai oublié le nom de la réalisatrice. Je suis un peu confuse, mais je me souviens du nom du film qui s'appelait Contre-champ. À contre-champ.
Oui,
ok, super.
Qui est vraiment très intéressant. Et musique, sur le centre de rétention, non, mais sinon, il y a plein. Enfin, il y en a sur le parcours d'exil, etc. Ça, il y en a.
Alors, après, aussi, dans les manifestations qu'on organise, on fait aussi des ciné-débats autour de ce sujet-là aussi. Je dirais pas fréquemment, mais enfin, ça. On en fait quoi. Je veux dire, pour les gens qui ont envie de s'informer, d'en savoir plus, il y a moyen de trouver de l'information en allant sur les sites que je vous ai cités, en allant sur le site de Colère aussi.
Les réseaux de Colère aussi.
Et les réseaux de Colère.
Voilà. Le festival le 4 avril prochain. Oui.
Super. Bah, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous étiez sur Jet FM. Et merci.
Ce fut un plaisir.
Merci.
Né per quanto il vostro piano qual è, giuro non ho.